du milieu de cette maison, de ce pays, de la terre immense et douloureuse des hommes, ô Dieu, nous nous tournons vers toi. À travers toi, nous regardons le visage de Jésus. Nous reconnaissons dans cet homme ta présence, dans cet humble la trace de ta venue, dans ce serviteur la force de ta bonté, dans ce condamné ta solidarité, dans ce ressuscité ta manière d'ouvrir les routes. Ouvre-nous à ta parole. Amen. Et je vous lirai ce matin deux textes. Tout d'abord, dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 19 à 22, Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à son enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. » Et puis dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 31, sur lequel portera la prédication, c'est le texte bien connu des pèlerins d'Emmaüs, et il se trouve juste avant celui sur lequel a prêché Dominique il y a 15 jours. Donc vous allez reconnaître un petit peu la liaison entre le texte. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et leur ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. » Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était avec eux, à table, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Amen. Que s'est-il passé sur le chemin d'Emmaüs ? Deux jours après la mort de Jésus. Que s'est-il passé entre ces deux hommes, ou plutôt entre ces trois hommes, pendant cette marche et ce repas pris en commun dans la foulée ? Est-ce qu'ils ont vraiment rencontré Jésus-Christ ? Était-ce lui en personne ? Était-ce son esprit ? Était-ce, pourquoi pas, une hallucination post-traumatique ? Ce texte sur les pèlerins d'Emmaüs, c'est l'un des récits évangéliques d'apparition de Jésus après résurrection, probablement le plus connu et qui a donné lieu à de nombreuses illustrations en peinture. Je pense par exemple aux deux versions du Caravage et aux deux versions de Rembrandt. Je vous invite à aller au musée Jacquemart-André voir celui de Rembrandt qui m'a particulièrement inspirée pour cette prédication d'aujourd'hui. C'est un magnifique récit mettant en scène deux disciples de Jésus que nous ne connaissons pas, qui doivent appartenir au second cercle autour des principaux disciples, Cléopas et un autre non nommé. Chaque évangile a son récit d'apparition du ressuscité, un peu différent, avec des apparitions diverses dans les jours qui suivent la crucifixion de Jésus. Et ce qui est très étonnant, c'est que, alors même que les quatre évangiles sont tout à fait d'accord sur les événements qui ont précédé la résurrection, ils divergent à ce moment de l'histoire en faisant apparaître Jésus successivement devant des personnes et des lieux très différents. En effet, sur les quelques jours entre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le premier dimanche, et sa crucifixion, les quatre évangélistes sont tous d'accord et font apparaître au détail près les mêmes personnages et les mêmes événements. Souvenez-vous, Jésus sur son âne devant la foule, l'acclamant comme son nouveau roi, le discours sur le mont des Oliviers, la préparation de la Pâque, la scène, la trahison de Judas, la veille à Gethsémané, l'arrestation, le reniement de Pierre, la comparution devant Pilate, l'échange avec Barabbas, la condamnation puis la crucifixion de Jésus, sa mort et sa mise au tombeau, puis même le tombeau vide. Tout cela, tous ces détails se retrouvent très exactement dans les quatre évangiles. Mais très exactement à partir de ce moment-là, les évangélistes ne sont plus totalement d'accord sur l'évocation des apparitions du Christ ressuscité. Pendant ces quelques jours entre sa résurrection présumée et sa montée au ciel. Certains le font apparaître devant Marie-Madeleine ou d'autres femmes, devant les 11 disciples rassemblés, devant Thomas l'incrédule, ou certains, comme Luc ici, devant de parfaits inconnus. Et on voit bien qu'il se noue là précisément, à la fin de l'histoire de la vie de Jésus, pour chaque évangéliste, la construction de l'après-Jésus-Christ, et avec elle, la capacité des premiers chrétiens à se fédérer autour d'un événement fondateur qui serait la résurrection de Jésus. Comment évoquer cette résurrection ? En esprit, en chair, seulement devant les très proches disciples, ou au contraire, comme choisit Luc dans ce texte, devant les plus éloignés ? Comment en faire une croyance commune ? Quelle hiérarchie d'importance impulser entre l'événement de la résurrection et tout le reste ? Le message de Jésus, les gestes du baptême et de la scène, qui ne sont pas encore des sacrements, etc., etc. Alors, pour tenter d'éclaircir tout cela, ce que je vous propose ce matin, c'est de prendre avec moi le chemin de ces deux disciples, et même de vous couler dans la peau de celui qui n'est pas nommé. Vous êtes le compagnon de Cléopas pour quelque temps, pendant toute la semaine qui a précédé, et pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé il y a plus de 2000 ans sur ce chemin d'Emmaüs. Donc revenons au dimanche précédent. Nous sommes avec eux, avec de nombreux disciples de Jésus, et nous sommes venus à sa suite ou à sa rencontre à Jérusalem lorsque la nouvelle de son arrivée s'est répandue. Dans une semaine, nous allons célébrer la Pâque juive. C'est un moment de fête et de rassemblement pour tous les Juifs, un peu comme Noël aujourd'hui pour les chrétiens. Toutes les familles, tous les clans se retrouvent pour quelques jours pour célébrer le souvenir de ce premier repas après la libération du peuple juif d'Égypte. Donc un moment de fête. Et aussi, cette fois-ci, un moment tout à fait exceptionnel, puisque ce Jésus, cet homme dont on parle de plus en plus, arrive à Jérusalem. Et peut-être qu'enfin, nous allons le rencontrer, celui dont on dit qu'il est plus qu'un prophète, un véritable Messie. Celui dont le message semble tellement différent, tellement rempli d'espoir pour tous. Alors, avec notre ami Cléopas, nous assistons à son arrivée sur l'âne, nous assistons à la ferveur toute neuve de cette foule qui l'accueille comme un roi sans royaume et sans richesse. Nous connaissons justement deux de ses disciples proches, Jacques et Jean, deux frères qui sont des vagues cousins. et qui nous ont raconté ce qu'ils font avec ce Jésus depuis 2 ou 3 ans. Comment cet homme prêche la bonté, l'accueil des petits et des pauvres. Comment il guérit les malades. Comment il tient tête aux puissants. Comment il donne à chacun ce qu'il lui faut pour vivre. Comment il parle d'un Dieu puissant et clément à la fois, un Dieu attentif à chacun, à chacune d'entre nous. Et pour que Jacques et Jean, que nous connaissons, aient quitté leur famille et leur maison pour le suivre, il faut bien que cet homme soit vraiment exceptionnel, inouï. Nous avons hâte de l'entendre prêcher au temple, de voir comment les prêtres et les pharisiens vont à leur tour, forcément, le vénérer. Et donc, après son arrivée à Jérusalem, voilà, nous l'accompagnons au temple avec la foule. Nous le voyons entrer au temple, chasser les marchands et libérer l'espace pour enseigner à ceux qui sont là, sans distinction de classe, de sexe, de richesse. Ce qui nous frappe, c'est que ce Jésus s'adresse de la même façon à chacun, femmes et hommes, samaritains et juifs, collecteurs d'impôts ou pestiférés. Nous voyons bien les regards des scribes et des sacrificateurs. Il vient déranger leur tranquillité. Ils n'ont manifestement pas envie de voir un soi-disant prophète prendre trop de pouvoir. Ils lui posent des questions pièges pour lui faire dire des choses qui leur permettraient de le condamner ou de le chasser. Mais ce Jésus est décidément imbattable, vraiment plus fort qu'eux. Il a une réponse imbattable, calme et sereine pour chacune de ces questions. Et chaque jour, il enseigne sereinement. Il répond aux uns et aux autres, à cette foule de plus en plus nombreuse qui vient écouter les paraboles et les sermons. Et surtout, il s'exprime dans un langage simple qui parle à chacun et pas comme les prêtres que nous connaissons. Alors bien sûr, cette semaine passe vite. Entre les journées au temple, les nuits au Mont des Oliviers, l'enseignement d'un monde qui paraît tellement nouveau, dans lequel chacun trouve sa place, tout cela paraît presque trop beau. Bien sûr, nous voyons bien que tout cela dérange de plus en plus les scribes et les principaux responsables du culte. Et effectivement, ils essaient déjà de nous faire changer d'avis, de nous dire que ce Jésus n'est pas aussi puissant que cela, que c'est probablement un imposteur, qu'il faut écarter au plus vite. Mais en fait, on ne voit pas vraiment le danger. Et puis, au moment de célébrer la Pâque, on nous dit que Jésus passe un repas avec ses 12 disciples au moment où chacun célèbre la Pâque en famille. Et déjà, certains dans la foule disent que ça ne peut pas être vrai, que ce prophète n'est probablement pas si puissant que cela. Les pharisiens ont peut-être raison. Après tout, on pourrait le mettre à l'épreuve pour voir s'il est sauvé par son Dieu. On verrait s'il a raison, s'il est tout-puissant. Alors, le vendredi de cette semaine, on nous dit que Jésus a été arrêté par les soldats et qu'il est présenté devant le gouverneur Pilate. Et probablement que, avec Cléopas, nous rejoignons la foule et nous le voyons, pauvre et décharné. Il n'a plus l'air d'un dieu. Ni même d'un prophète. C'est un vagabond qui baisse la tête et ne cherche même pas à se défendre contre ses accusations. Où sont-ils ceux qui disaient qu'ils l'accompagneraient jusqu'à la mort? Nos cousins, Jacques et Jean, comme Pierre et les autres, ils ont disparu des radars, à croire qu'ils ne veulent plus être vus avec lui. La foule, retournée contre lui, hurle son dépit, demande sa mort, accordée par un Pilate qui ne voit pas bien ce qu'on lui reproche, mais qui laisse faire. Est-ce que nous avons, nous aussi, hurlé avec la foule? Peut-être bien que nous avons, nous aussi, renié et condamné ce Jésus sur lequel, hier encore, nous fondions tant d'espoir. C'est vrai, après tout, un dieu doit pouvoir résister aux attaques. Sa puissance devrait surpasser facilement la justice humaine, non? Le voilà donc crucifié au milieu de 2 brigands. Le voilà qui agonise lentement alors que son dieu ne lui vient même pas en aide. La foule dépitée, désenchantée, et nous-mêmes au milieu de cette foule, nous assistons à la mort d'un prophète qui ne se défend pas, qui accepte son sort en priant. Au pied de la croix, juste 2 ou 3 personnes, surtout des femmes. La scène nous laisse une impression étrange. Nous qui étions si nombreux à prier avec lui quelques jours auparavant, nous qui fondions tant d'espoir sur ce discours de cet homme qui prêchait la bonté et l'amour, comment a-t-il pu s'effondrer aussi vite, aussi facilement ? Le lendemain, toujours pas de nouvelles de nos cousins Jacques et Jean, que nous avons cherchés partout, ni de Pierre, ni de personne qu'il côtoyait de près. On apprend qu'il a été mis au tombeau ce matin. Jérusalem se réveille, un peu sonnée après ces événements étranges, et la Pâque n'a plus tout à fait le même goût. Dimanche matin, nous nous décidons à quitter la ville, malgré quelques rumeurs qui se répandent. Il paraît que les femmes qui l'entouraient disent que le tombeau est vide, que Jésus leur serait apparu et qu'il serait vivant. On a du mal à y croire. Et triste et dépité, on commence notre trajet à pied vers Emmaüs, à quelques heures de marche de Jérusalem. Nous voilà donc à deux, marchant sur le chemin d'Emmaüs. Déçus, honteux, frustrés, nous prenons la route pour ne pas revenir à Jérusalem. Et après le dépit des événements du week-end, c'est une grande, grande tristesse qui nous envahit. Ce goût amer que nous avons, après être montés si haut, d'être retombés si bas. Chacun de nous se laisse aller à ses pensées noires, dans un silence renfermé et douloureux. Le rêve d'une vie nouvelle qui s'écroule et nous fait retomber dans la fatalité de la vie d'avant. Et voilà qu'en chemin, un autre marcheur nous rejoint, que nous ne connaissons pas et qui semble ne rien connaître des événements récents. Et après le silence pesant de notre début de marche, avec l'arrivée de ce nouveau compagnon, la conversation s'installe. La parole circule. On se découvre un besoin de parler. Comment ? Tu ne sais pas ce qui s'est passé ? Donc bien sûr, on lui explique notre espoir fou, puis notre déception à la mesure de cet espoir. Au fond, on y a cru, mais rien ne change, rien ne changera. Ce Jésus que nous croyions tout puissant, il est tombé comme les autres, il ne peut rien pour nous. Comment avons-nous pu nous laisser avoir à son discours ? Et là, bizarrement, notre compagnon se fâche. Comment rien ne change ? Mais avez-vous bien entendu ce qu'il disait ? Et vu ce qu'il a fait ? Est-ce que tout cela n'a rien changé déjà dans vos vies ? Souvenez-vous, déjà les prophètes annonçaient sa venue, Moïse et tous ses prophètes expliquaient ce qui allait se passer. Vraiment, mais comment pouvez-vous ne pas le reconnaître ? Avez-vous déjà tout oublié de ces moments passés avec lui ? De cet enseignement patient, de cette invitation à vous réveiller ? Avez-vous donc déjà cessé de le chercher ? Alors, oui, évidemment, nous sommes un peu secoués par cette conversation. Cet homme venu de nulle part qui nous dit qu'on aurait pu réagir autrement. Peut-être que ça fait du chemin dans nos têtes. Puisqu'au moment d'arriver au village et d'entrer dans une auberge, nous l'invitons à rester avec nous et à partager notre repas pour continuer cette discussion qui a sur nous un effet plus que troublant. À la fois, ça nous secoue, ça nous culpabilise aussi un peu. Mais surtout, tout de même, c'est un vague espoir fou qui se réveille en nous et nous fait relever la tête. Est-ce qu'il se pourrait que ces femmes aient raison ? Qu'il se soit passé vraiment quelque chose de surnaturel dans ce tombeau ? Que ce Jésus-Christ soit vraiment ressuscité ? Nous parlons, nous échangeons. La parole circule et irrigue nos pensées, réveille nos sens, remet nos corps debout et nos existences en tension. Dans cette pauvre auberge, lorsque nous partageons le pain, le vin, la parole, eh bien soudain, comme dans le tableau de Rembrandt, c'est un grand soleil qui illumine cette table. C'est une fraternité, un engagement, une nouvelle humanité que nous partageons à deux, à trois, avec ceux et celles qui nous entourent. Que cet homme qui nous accompagne soit Jésus-Christ ou non, qu'il soit visible ou invisible, n'est même plus une question, puisque cette fois, vraiment, nous le reconnaissons, nous l'entendons. Et dans cet éclair sublime qui nous réunit, nous entendons ce que Jésus-Christ nous dit. Les humains sont faillibles et changeants, parfois bons, parfois méchants. Notre Père qui est aux cieux le sait et il ne nous en veut pas. Les humains sont capables du meilleur comme du pire. Et Dieu a envoyé son Fils unique pour nous pousser vers le meilleur, pour nous aider à secouer nos chaînes, à sortir de la culpabilité et poursuivre à notre tour son œuvre parmi les humains. Les humains sont souvent aveugles et sourds, mais lorsqu'ils acceptent de se mettre en chemin, d'exprimer leurs doutes, d'écouter, d'ouvrir leur cœur, alors le ciel s'entr'ouvre. Comme l'exprime le verset de Jean 16 que je vous ai lu en préambule. « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. » J'arrête là mon récit une minute pour revenir aux évangélistes. Ces quatre rédacteurs, à ce stade de l'histoire, et chacun à des époques légèrement différentes, ont eu besoin d'asseoir la puissance de Jésus-Christ à travers un événement qui leur permette d'amplifier le message des premiers chrétiens. En effet, entre l'an 40 et l'an 100, comme le racontent les Actes des Apôtres, Paul et d'autres ont commencé à enseigner, à voyager pour prêcher le message de leur Dieu. Mais aussi, ils se sont organisés, passant ainsi des premiers chrétiens au christianisme en quelques décennies. Bien sûr, ils se sont appuyés sur la prédication de Jésus, comme lui-même les y a encouragés, en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Bien sûr, ils se sont aussi servis des deux signes de fraternité et de partage également institués par Jésus-Christ, le baptême et la scène. Mais on peut penser qu'ils ont cru utile d'en rajouter un petit peu, avec la dramatisation du destin de Jésus, sa crucifixion et sa résurrection. Alors qu'au fond, nous aujourd'hui, si nous pouvons avoir des questions légitimes sur sa résurrection, chacun de nous ne peut que constater de la vie éternelle de Jésus-Christ qui s'exerce sur nous tous depuis plus de 2000 ans. Nous sommes, vous et moi, des pèlerins d'Emmaüs. Nous sommes Marie-Madeleine, Thomas, les disciples Pierre, Jean et André. Nous sommes comme eux, comme elles, incrédules et peureux. Nous cherchons souvent, nous trouvons parfois, nous oublions facilement. Nous renonçons également, fatigués ou distraits, volontiers paresseux. Nous n'accordons pas de prix à ces rencontres au bord du chemin. Parfois, nous sommes butés, sourds et aveugles, capables de choisir le pire. Et parfois, nous percevons que c'est bien à nous que Jésus-Christ s'adresse, à nous avec nos pauvres existences de pécheurs, à nous avec nos maigres forces auxquelles il vient ajouter les siennes pour nous réveiller, pour nous relever de nos chemins de tristesse et faire lever sur nous l'aube nouvelle d'une résurrection.